9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
Autant le confesser d'entrée de jeu dans le long cortège de nos reines de France, Marie-Antoinette de Habsbourg-Lorraine, archiduchesse d'Autriche puis dauphine de France, puis bien sûr reine de France avant d'accepter le titre de reine des Français dans les toutes dernières années, celle que les révolutionnaires appelaient l'Autrichienne et que les royalistes vénèrent comme la souveraine martyre, Marie-Antoinette, en deux mots, n'a pas spontanément ma préférence. Je connais, c'est vrai, très bien les travaux pénétrants de Pierre de Noyac, qui a été en quelque sorte mon guide dans l'histoire versaillaise. Comme beaucoup, j'ai bénéficié du génie de Stefan Zweig et des efforts du cher André Castelot. J'admire évidemment tous les efforts de mes amis 18e-istes, à commencer par Evelyne Levert, pour défendre la figure et la mémoire de l'infortunée reine de France, n'est-ce pas ? Mais pour autant, disons-le, elle ne hante pas mes nuits. Bien avant que le film sucré de Sofia Coppola ait fait que les jeunes japonaises vouent un culte à Marie-Antoinette, j'avais appris à connaître cette personnalité hors du commun. Et c'est vrai que j'ai été heureux, jadis, d'être reçu chez la regrettée Liliane de Rothschild et de pouvoir toucher, de pouvoir respirer les trésors qu'elle avait réunis en souvenir de sa reine fétiche. Et même, le jour où, pour un épisode de L'ombre d'un doute qui était consacré au dernier jour de Marie-Antoinette, on avait retracé complètement le procès de l'ancienne reine. Quand on m'a mis dans les mains l'original de sa lettre testament, je n'ai pas pu retenir des larmes, c'est vrai. Finalement, le personnage m'est probablement plus familier que je ne veux bien le dire. Et c'est pour faire quelque chose de cette familiarité que je vais, si vous le voulez bien, tenter maintenant une petite expérience, une grande expérience même en vérité, vous emmener avec moi dans le passé, à sa rencontre. À Paris, on est au début de l'automne 1790, après le séjour d'été à Saint-Cloud qui avait été permis par l'Assemblée constituante. Bref, attention, nous voici aux Tuileries.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
C'est une atmosphère de contrainte qu'on ressent dans l'ancien palais de Catherine de Médicis. C'est un palais qui avait été remanié pour l'enfant Louis XV, mis au goût du jour, là, il y a quelques semaines, après les dramatiques journées d'octobre 1789, par des dizaines d'ouvriers qu'on a mobilisés pour l'occasion. La reine, vous le savez peut-être, a laissé à sa fille Marie-Thérèse l'usage des jolies pièces qu'elle a fait aménager il y a 6 ans pour ses passages dans la capitale, et elle-même vient de s'installer dans un très beau rez-de-chaussée côté jardin. C'est l'ancien appartement de la comtesse de Lamarque, avec un décor assez, comment dire, un décor dernier cri. Cette belle enfilade donne sur tout un tas de cabinets d'entresol qui ont été aménagés par le garde-meuble particulier de la reine. Eh bien, c'est dans ce refuge méconnu, que la plupart des gens ignorent d'ailleurs, que j'ai la chance d'être admis en votre nom. Au moment même où se discute pied à pied la mise en œuvre de la Constitution civile du clergé, j'ai bénéficié, disons-le, de l'entremise du marquis de Saint-Priest, qui est secrétaire d'État à la Maison du Roi. Alors, maintenant, à cause de la Révolution, il faut changer les termes, on dit ministre de l'Intérieur. Bon, c'est comme ça. Les artisans n'ont pas entièrement achevé leur ouvrage, et c'est vrai que par endroits, il y a encore quelque chose du luxe un petit peu tapageur de l'ancienne occupante. On n'est pas encore tout à fait dans la coûteuse sobriété que voudrait la reine des Français. C'est en tout cas ce qu'elle a recommandé à tous les décorateurs qui travaillent à son service. Je pense notamment aux grands ébénistes Jacob, Vaudreuil, Senet, etc. On l'aura compris, l'heure n'est plus au bois doré, l'heure est à l'acajou ciré. Ce ne sont plus des brocarts rebrochés qu'on a aux fenêtres, mais des Pékins qui certes restent ruineux, mais sont d'apparence beaucoup plus discrètes. Et voici Madame de Tourzel, la gouvernante des enfants de France. On a dû la charger de me faire patienter. Oh, elle est exquise, Madame de Tourzel. Sa politesse paraît une greffe improbable de Versailles sur le tronc un peu vert, un peu plus âpre des manières parisiennes. Je lui explique, pour meubler le silence, que j'aimerais beaucoup obtenir de la souveraine des confidences sur un certain nombre de circonstances du règne où, à mon avis, elle a commis des faux pas. Et ces faux pas nous ont peut-être menés là où nous sommes en cette révolution. Ah, Madame de Tourzel est un petit peu étonnée. Monsieur, me dit-elle avec cette espèce de petit rire qu'on avait qu'à Versailles, je ne suis pas certaine qu'il soit d'excellente politique pour réussir votre audience de rappeler à Sa Majesté ce genre de souvenirs. C'est aussi, Madame, lui dis-je, que le temps m'est compté et ce serait folie d'en perdre en peccadille. Madame de Tourzel ne répond pas à cette objection. Enfin, quand même, elle fait une petite mimique qui veut me faire comprendre que si jamais les choses ne tournent pas à mon avantage, eh bien, je n'aurai après tout à m'en prendre qu'à moi-même. L'ensemble luxembourgeois des solistes européens sous direction de Christophe Koenig interprétait le troisième mouvement de cette première symphonie de Méhul.
Vous écoutez Radio Classique.
Alors, on pourrait faire tout un catalogue des fautes qui ont été commises par la reine, d'abord par la dauphine, puis par la reine Marie-Antoinette. La première peut-être, d'ailleurs je ne sais pas si c'est une faute, c'est peut-être plutôt une sorte de maladresse pour tout vous dire. On l'aurait oublié cette maladresse si d'autres comportements par la suite n'avaient fait regarder celui-ci comme une sorte de précédent. Nous sommes à l'époque où la jeune archiduchesse vient d'arriver de Vienne pour épouser le duc de Berry, donc le petit-fils de Louis XV, l'héritier, le dauphin. Et la moindre de ses paroles est scrutée, bien entendu, le moindre de ses gestes aussi. La cour est avide de se forger une opinion sur cette jeune princesse qui arrive de cette archiduchesse qui arrive de Vienne. Et dès les premières semaines, elle est confrontée aux rigidités de sa première dame d'honneur, la maréchale de Mouchy, qu'on appelle la comtesse de Noailles à la cour, et qui impatiente beaucoup l'archiduchesse. D'ailleurs, elle va finir, Marie-Antoinette, par surnommer cette grande dame qui pourtant était une proche de la défunte reine Marie Lesinska. Elle l'appelle Madame l'étiquette. C'est pas très gentil. C'est vrai que la comtesse est quand même très à cheval sur le moindre point de protocole et, par exemple, elle va jusqu'à reprendre Madame Campan pour n'avoir pas laissé pendantes les barbes de sa coiffe alors qu'elle est devant la dauphine. Les barbes, ce sont, vous savez, les grandes attaches de dentelle qui, normalement, lorsqu'on est en présence d'une personne royale, doivent être laissées libres. Bon, ce sont vraiment des points de détail, mais ça fait partie de ce que Madame de Noailles s'estime en devoir d'exiger de l'entourage de la souveraine. Elle a aussi été contrariée, Madame de Noailles, que la jeune dauphine ne l'ait pas fait appeler dans les formes au moment, en pleine nuit, d'aller satisfaire un besoin naturel. Vous voyez jusqu'où on en est. Bon, Marie-Antoinette aurait dû comprendre que tous ces points d'étiquette qu'elle considère comme superflus, exaspérants, qui n'ont rien à voir avec la bonhomie de la cour de Vienne, chez sa mère où elle a été élevée, elle aurait dû comprendre qu'à Versailles, c'est très important. Elle aurait dû suivre les conseils de sa mère, se montrer plus attentive à flatter les vieilles familles de la cour, dont le fameux clan Noailles, qui bientôt va prendre fait et cause pour la dame d'honneur et va commencer à répandre sur la dauphine des bruits déplaisants. Alors, je ne vais pas m'étendre sur le mépris que Marie-Antoinette affiche envers Madame du Barry, sur l'espèce d'hostilité dont elle va la poursuivre et qui, paradoxalement, ne contribuera pas du tout à sa popularité. On lui reprochera également, dès les premières semaines, de ne pas reconnaître les gens, de ne pas saluer les courtisans qu'elle croise. Alors, en fait, la vérité, c'est qu'elle est complètement myope et qu'elle ne reconnaît pas les gens, Marie-Antoinette. Mais ça, les gens ne le savent pas. et il la trouve simplement hautaine, méprisante, légère, désinvolte. Et puis arrive au début du règne, c'est-à-dire que cette fois, Louis XV est mort et elle est elle-même reine, il y a l'affaire de Guine. Alors, ça a commencé plus tôt, l'affaire de Guine. Ça a commencé 3 ans avant la mort de Louis XV. Il y a un ambassadeur à Londres qui est accusé de malversation financière et il accuse son secrétaire d'utiliser son nom dans certaines opérations financières. Et le secrétaire en question, qui donc s'appelle Monsieur de Guine, pour se défendre, accuse le diplomate et va trouver un soutien en la personne du ministre des Affaires étrangères, on dit secrétaire d'État à l'époque, le duc d'Aiguillon. De son côté, le duc de Choiseul, qui déjà a été exilé, mais qui est très proche de la cour de Vienne, et donc très proche de la nouvelle dauphine, le duc de Choiseul en tient pour Guine. Et peu après l'avènement de Louis XVI, sur les instances de la nouvelle reine, une commission est nommée pour blanchir l'ambassadeur qui va être titré duc de Guine à son retour de Londres en 1776. Et vous imaginez bien que cette affaire va faire grand bruit et qu'on l'on considère que la reine joue dans cette histoire un rôle déplaisant, qu'elle joue un rôle d'intrigue, peut-être au nom de la cour de Vienne, en tout cas qu'elle influence son mari, qu'elle influence le roi, et tout ça est très mal perçu. Madame de Tourzel me pose la question, d'ailleurs, pensez-vous, monsieur, me dit-elle, que sa majesté ait pris ce jour-là la mauvaise route ? J'ai dû reconnaître qu'il était difficile d'en disconvenir. La jeune reine, lui dis-je, a fait prévaloir ses amitiés et ses foucades au détriment des cercles influents de la cour et de la ville. Et elle a armé les partis qui plus tard devaient la laisser accuser des pires vilainies quand ils ne les propageraient pas eux-mêmes, ces vilainies. Et là, Madame de Tourzel comprend très bien à quoi je fais allusion. À cette littérature ordurière qu'on a répandue sur la dauphine puis sur la reine. Personne ne peut ignorer dans les années 1770 tous ces libelles qui circulent sous le manteau et qui l'accusent de toutes les turpitudes, de toutes les débauches. Tout ça à tort, hein, bien entendu, mais ça fait partie d'une réputation qu'on ruine. À ce stade, les préventions de la bonne société ont largement débordé dans les étages inférieurs de la société. Ils ont gagné, en infiltrant les couches les plus populaires, une violence et une vulgarité absolument incroyables. Et ceux qui, normalement, parce que c'est leur fonction, devraient mettre bon ordre à toutes ces calomnies, sont au contraire les premiers à vouloir les faire prospérer. Et je me suis gardé d'ajouter devant Madame de Tourzel que l'absence de grossesse qui était fatidique chez une reine de France et la difficulté de ses rapports avec Louis XVI, tout ça n'ajoutait rien de bon à la situation, évidemment. Je voyais bien que Madame de Tourzel, à ce moment-là, commençait à être un peu gênée et je me suis mis à douter de la réaction de la souveraine en personne si j'allais jusqu'à lui rappeler en face un certain nombre de mauvais souvenirs. Alors, comment est-ce que Marie-Antoinette allait réagir ? On la disait fière, on la disait d'humeur sombre, assez nerveuse depuis cette installation aux Tuileries, cassante avec ceux qu'elle suspectait d'animosité envers la monarchie en général et envers sa famille en particulier. Car pour Marie-Antoinette, défendre sa famille, c'est absolument essentiel. C'est même le gros de sa préoccupation. Et plus approche l'heure de ma rencontre avec la reine, et plus je me pose des questions, je vous le dis franchement. Et justement, on entend des pas dans l'escalier. On voit que le service intérieur se met à s'agiter. Et je me dis que la reine va entrer. La porte, effectivement, commence à bouger. Le battant s'ouvre. Et tandis que je me lève en retenant mon souffle, eh bien, je vois entrer une dame qui n'est pas la reine. En vérité, c'est sa dame d'atour. C'est la comtesse d'Ossun. « J'ai bien peur, monsieur, me dit la comtesse d'Ossun, qu'il vous faille revenir un autre jour. Sa majesté est souffrante et ne pourra pas vous recevoir, hélas. » Alors là, je suis un peu surpris. « La reine écrit beaucoup ces temps-ci, ajoute-t-elle, et elle passe le reste de son temps à lire toutes sortes de dépêches. Je ne vous apprends pas la gravité de la situation. Je crains que cette activité intense, jointe à quelques tracas, ne soit la cause des migraines qui, hélas, la tiennent si souvent alitée. » Alors là, j'étais un peu déçu, hein, je vous dis franchement. Madame de Tourzel a redoublé de sollicitude, sans que je sache quelle était dans cette attitude la part de bonté et celle de la commisération. Bref, elle m'a demandé, parce qu'elle était très polie, parce qu'elle est, elle est l'incarnation même de cette politesse, Madame de Tourzel, elle me demande de continuer, d'achever l'inventaire que j'étais en train de dresser des maladresses de la reine. N'en continuez pas moins, monsieur, s'il vous plaît. Quelle place donneriez-vous dans votre réquisitoire aux dépenses inconsidérées de la reine et de ce que certains ont appelé sa coterie? Oh, ce n'est pas un réquisitoire, ai-je rectifié, simplement une tentative d'explication. Il me semble que les déficits de la reine ont joué un rôle essentiel dans le discrédit où elle est un peu tombée. C'est le moins qu'on puisse dire. En 1777, quand même, la reine a fini par avouer au roi une dette de jeu de 488 000 livres, une somme gigantesque. C'était le prix d'une frégate de guerre. Et Louis XVI a réglé la note sans hésiter et de la meilleure grâce, nous dit Madame Campan. C'était sans doute la faiblesse d'un mari amoureux, conscient de certaines insuffisances. En attendant, la naissance de Madame Royale le 19 décembre 1778 et les naissances qui vont suivre vont rétablir un semblant d'équilibre au sein du couple royal. Et ça va amener la reine à se poser davantage, à être peut-être mieux respectée. Hélas, il est bien tard. La réputation de la souveraine est détruite. L'image qu'elle a dans le public est effroyable et pour elle, déjà avant même que ne commence la révolution, c'est le début d'une espèce de calvaire et de descente aux enfers. Les premières notes de l'ouverture de l'Alceste de Gluck par l'English Baroque Soloist sous la direction de Sir John Eliot Gardiner.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Je ne vais pas revenir sur l'affaire du collier en 1785, puisque j'ai eu l'occasion de vous la raconter à ce même micro il y a très peu de temps. Vous rappelez tous ces gens qui grenouillent autour de Marie-Antoinette et qui vont l'entraîner dans une affaire où elle est parfaitement innocente, bien entendu. Mais il n'empêche que, à force d'entretenir des coteries, à force de laisser courir des bruits, eh bien, on finit par vous prêter toutes sortes de turpitudes, même totalement injustifiées, pour ne pas dire bêtement injustes. Il faut dire aussi que le roi Louis XVI, n'ayant pas de favorite comme ses prédécesseurs, évidemment, la haine populaire qui d'habitude se cristallisait autour des noms des Montespan ou Pompadour va avoir tendance à se cristalliser autour de la reine elle-même. Le plus grave, peut-être, dis-je à Madame de Tourzel, c'est le retrait, c'est l'isolement cultivé par cette reine qui voulait toujours son intimité. À Trianon, me dit Madame de Tourzel, mais oui, à Trianon et ailleurs. Il n'est pas normal qu'une reine se soustrait à la vue, au contact de la cour et du peuple pour aller se renfermer dans un domaine inaccessible au milieu d'une petite société par ailleurs connue pour ses abus. Le fantasme prospère sur ce qui demeure invisible, dis-je à Madame de Tourzel. Et faute de connaître les gens, il devient plus facile de dauber sur leur compte. La reine cherchait peut-être un refuge, me dit-elle, avec cette extrême gentillesse qui la caractérise. Et ce faisant, dis-je, elle a construit sa prison, façonné son malheur. N'oubliez pas que l'an dernier, lors de la réunion à Versailles des États généraux, les députés du tiers qui visitaient le petit théâtre de carton-pâte ont été déçus de n'y point trouver les rideaux constellés de pierres précieuses que la rumeur publique leur avait dépeints. C'est un paradoxe, mais on accusait Marie-Antoinette de dépenses somptuaires et quand on voit que finalement les dépenses en question n'ont été que pour du carton-pâte, eh bien on est peut-être encore plus en colère. Pour un peu, me dit Madame de Tourzel, ils auraient reproché à la reine de s'être montrée économe. Oh, je ne crois pas. Ce qu'ils lui reprochaient, dis-je, c'est de n'avoir pas fait en sorte que ces dépenses, de toute manière somptuaires, se voient et servent à la grandeur de la couronne. Et là, la conversation est en train de se détendre. Nous commençons à deviser un peu plus librement. Et moi, je n'ai pas remarqué que la porte, de nouveau, s'est entrouverte et que, depuis l'entrebâillement, nous sommes observés.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Il y a là, dans l'ombre, un regard calme et scrutateur qui me paraît contenir en même temps toute la lassitude du monde. Madame de Tourzel se lève d'un bond, elle s'abîme aussitôt dans une grande révérence, vous savez, celle qu'à la cour on appelle des fromages. Et là, je comprends ce qui se passe et je m'incline à mon tour et sans pouvoir détacher mon regard de celui qui peu à peu est en train de sortir de la pénombre. Et c'est à moi que s'adresse la voix détimbrée. « Faites excuse, monsieur, je dois dire un mot à la gouvernante de mes enfants. » « Madame, ma chère Tourzel, veillez, je vous prie, à ce que le dauphin prenne ses gouttes, et M. Vic d'Azyr a été très clair là-dessus, vous le savez. J'y songerai, madame, dit Madame de Tourzel, et aussi, faites monter ma fille dès que vous en aurez loisir. » Et à ce moment-là, la reine se tourne de nouveau vers moi, elle ne me regarde pas vraiment, elle ne fait pas la plus légère allusion à l'entretien manqué, puisque nous avions rendez-vous et ce rendez-vous s'est évaporé. Il est probable qu'en fait, on ne l'ait même pas avertie de ce qu'elle devait me rencontrer, de ce qu'elle devait nous rencontrer. « Encore pardon, monsieur, me dit-elle simplement. Madame, je m'incline. » Et la voilà qui est déjà dans une espèce d'envol, hein, elle est d'une grâce extraordinaire, la voilà qui déjà disparaît. Alors on peut toujours pérorer, vous savez, sur les circonstances de l'histoire, sur les qualités des uns et les défauts des autres, sur les habiletés ou les maladresses de la reine. Bon, c'est facile de le faire quand on ne craint ni d'être contredit par l'intéressé, ni de se montrer injuste à force de simplification. Les propos peuvent aller et venir sans conséquence au gré des opinions des uns et des autres. Mais d'un seul coup, quand vous vous retrouvez en face de la personne elle-même, que vous êtes confronté à l'être humain dans son épaisseur irréductible, dans son mystère, c'est comme si les discours se vidaient de leur substance et d'un seul coup vous paraissez complètement vain. Ah, j'avoue que je n'en ai pas dit beaucoup à Marie-Antoinette lorsqu'elle m'a regardé dans les yeux. J'avais commencé par vous dire que cette reine n'était pas ma préférée. J'aurais dû préciser dans la foulée qu'elle était et qu'elle reste la seule que j'ai jamais rencontrée.
Vous écoutez Radio Classique.
Et voici Christian Morin, qui a conservé sa petite doudoune ce matin. Et pourtant, il ne fait pas si froid dans le studio, mon cher Christian. Bonjour.
Non, non, mais je l'ai conservée parce que je vais la retirer, bien évidemment. Voilà. Pendant l'émission, je suis arrivé en vous écoutant, je m'assieds à vos côtés et puis je vous entends narrer Marie-Antoinette. Vous me faisiez penser à quelqu'un qui avait beaucoup d'amour et de respect.
Je vous vois venir.
Ce cher André Castelot.
André Castelot, bien sûr.
Ah oui, quand il parlait de Marie-Antoinette, c'était en amour.
Il avait un coffre de voyage qui était censé avoir appartenu à la dauphine lorsqu'elle était arrivée en France. Et je le revois caressant cet objet avec une espèce de tendresse. Oui, c'est vrai qu'il avait une passion pour la reine, qui d'ailleurs avait été le plus grand des succès de toute sa carrière.
Exactement, tout à fait.
Je lui avais demandé, il habitait un somptueux appartement à Mufoche, je lui avais dit, oh, vous avez un très bel, merveilleux appartement, un jour comme ça, dans une conversation. Il me dit, ah, mais ça c'est Marie-Antoinette, figurez-vous, ce sont les droits d'auteur de ma biographie de 1959.
Mais j'aimais beaucoup la douceur et la tranquillité, la paisibilité nobilité, puis son épouse.
Oui, bien sûr.
Michel, qui était originaire de Bordeaux. Donc il y avait une complicité entre mais nous quand ça, on discutait avec
André. Ça crée des liens.
Voilà. Merci d'avoir évoqué ces reines de France. On va retrouver une autre reine cet après-midi pour terminer ce rendez-vous.
On l'aura fait toute la semaine.
La dernière reine, Marie-Amélie.
Oui, alors là, nous sommes après la Révolution. Nous sommes même après la Restauration. C'est sous la monarchie de Juillet. C'est l'ancienne duchesse d'Orléans qui est devenue l'épouse du roi des Français, Louis-Philippe Ier.
Parfait. 14h, Franck Ferrand. Bon week-end. Et puis, on se retrouve avec grand bonheur dès lundi.